Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Sporama, votre émission sportive hebdomadaire. Et merci d'être à ce rendez-vous grâce à votre poste radio en bande FM. Vous le savez, sur le bouquet Canal Plus, numéro 555 et aussi sur internet www.voaafrique.com. Nos consultants sont également présents pour leur analyse et commentaires. J'ai salué Lawal Dim Kosuro qui est avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
De Columbus, dans l'Ohio, nous avons Amédine Si. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouf est à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis à Kinshasa, nous avons Valdo Simon Yamba Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, dans les thèmes des débats d'aujourd'hui, les annonces importantes faites lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF Poker et puis les barrages allés de la Coupe de la Confédération. Sporama, c'est parti. Les matchs allés du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération ont eu lieu hier. Dernière étape avant la phase de poule. 16 duels étaient au programme et le tout puissant Mazembe de Lubumbashi s'est contenté d'une petite victoire 1-0 face au Sud-Africain de Marumo Galan. Service minimum donc pour les Corbeaux qui ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise au match retour dimanche prochain. Valdo, ça s'annonce compliqué aussi pour les deux autres représentants congolais, Manema Union et le Daring Club Motéba Pembe.
Fortune diverse pour le club de la RDC avec moins de garanties pour espérer mieux lors de la manche retour si Mazembe a eu du mal à l'emporter 1-0 sur les Sud-Africains des Marumo grâce notamment à un autobus alors que le club de la RDC évoluait dans son temple qui a été ouvert au public à 50% sur autorisation de la CAF. L'autre club de la RDC, à savoir Manima Union, qui évoluait au Stade des Martyrs, s'est heurté aux Égyptiens des Pyramides, concédant la défaite d'un but à zéro. Pendant ces temps, au Niger, la contre-performance cohabitait avec les derniers clubs au Motema Pembe, puisqu'il est battu 2-0, tout compte fait. C'est un week-end peu digeste pour l'ensemble des clubs de la RDC, surtout pour Mazembe et Manima Union, qui viennent de la Ligue des Champions de la CAF. Heureusement pour eux, ils ont 90 minutes de la manche retour pour tenter de rectifier les tirs, sinon la RDC risque d'être rayée des interclubs de la CAF saison 2021-2022.
Déception aussi pour la JS Kabylie. Le finaliste de l'an passé s'est incliné en Eswatini 1-0 face au Royal Léopard. Et puis, dans une moindre mesure, la Renaissance de Berkane a fait match nul 0-0 au Rwanda contre APR. Amine, les Marocains évitent de peu la défaite.
Disons qu'ils ramènent un bon match nul dans la mesure où l'équipe est partie avec uniquement 15 joueurs sur la feuille de match. En raison des nombreuses blessures et de l'absence de nombreux cadres, notamment Issoufou Dayo, Nemsiaoui et d'autres joueurs expérimentés rodés à ce genre de joute. L'équipe de la RSB a fait une bonne première mi-temps où elle a eu quelques opportunités de scorer. Il est vrai que les choses se sont compliquées en deuxième période avec l'expulsion de Hamza El-Gregui à 15 minutes de la fin. Mais hormis quelques approximations et surtout une ou deux occasions en toute fin de rencontre, il n'y a pas eu lieu de s'inquiéter par rapport au comportement de l'équipe lors de cette rencontre face à une courageuse formation de la PR, entraînée par le Marocain Adel Radi. Un résultat donc qui va être décidé au match retour à Berkane dans une petite semaine. La RSB va devoir donc maintenant récupérer quelques cadres, récupérer quelques blessés pour pouvoir bien évidemment aborder ce match retour dans les meilleures conditions possibles face à une formation qui est reversée de la Ligue des Champions et qui vendra très certainement très cher sa peau au match retour à Berkane.
De son côté, la SEC d'Abidjan s'est imposée 2-0 contre les Angolais d'Interclub, tout comme les Ghanéens d'Assofoc contre les Algériens de la JS Sahoua et les Sud-Africains d'Orlando Pirates au Liberia face à Oilers. C'est bien parti aussi pour les Zambiens de Zanaco qui ont dominé 3-0 les Maliens de Binga. Amédine, révélation cette saison dans cette compétition. Le club de 2e division est plus que jamais en difficulté.
Oui, Élisée, avec cette lourde défaite,
On peut dire que le petit poussé de la Coupe de la CAF est quasiment éliminé, car je vois mal cette formation malienne faire ce qu'on appelle désormais la remontada, mais on ne sait jamais avec cette équipe malienne qui a déjà réalisé des exploits dans cette compétition. Donc attendons de voir le match retour, ce que cela va donner. Élisée.
Succès par contre de l'autre club du Mali, le Stade malien 1-0 à domicile face au Libyen d'Al Ahly Tripoli. Dans les autres rencontres, victoire 1-0 également de l'AS Otoho Doho sur Gomaya. Et puis 0-0 dans les matchs Touskeur, Club Sportif Sfaxien et FC Nouadhibou Coton Sport de Garoua. On revient à vous Valdo. Les cotonculteurs rassurent avant le match retour au Cameroun.
Pour mettre la qualification au match retour, il faudra aux Camerounais d'être cette fois-là décisifs sur la ligne offensive et efficaces. Derrière, Élisée, quand on sait qu'un nul blanc a toujours été un score piège, surtout pour celui qui joue les matchs retour à domicile, puisque ce score laisse place à plus d'une possibilité aux visiteurs, notamment les nuls avec but. Il faudra donc à Coton Sport d'être très prudent, puisque la qualification est loin d'être jouée après ces nuls et la situation est loin d'être garantie parce que le match retour se joue au Cameroun. Avec ces nuls blancs, Nouadhibou serré, on ne peut plus à l'aise que le club camerounais qui a une réputation à défendre, ce qui ne doit pas se transformer en pression négative, mais plutôt une pression positive qui doit permettre à Coton Sport d'assurer devant son public cette place en phase des groupes de la Coupe de la Confédération.
Merci Valdo. A noter que le match entre les Libyens d'Al Ittihad et les Nigériens d'Enimba n'a pas eu lieu. Il devrait se tenir en Tunisie, mais les autorités locales ont refusé de laisser entrer la délégation nigériane sur leur territoire pour cause du coronavirus. La CAF a donc proposé que la qualification se déroule en un seul match au Maroc, ce que protestent les Libyens qui réclament une victoire sur tapis vert. Affaire à suivre donc. Des terrains aux coulisses. La CAF s'est réunie en assemblée générale extraordinaire au Caire pour discuter de l'actualité du foot africain. D'importantes décisions ont été prises, notamment l'organisation d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Les 54 pays membres de l'instance ont tous soutenu cette proposition à l'unanimité en présence de Gianni Infantino, président de la FIFA. Amine, comme souvent, la FIFA pourra compter sur l'Afrique.
C'est un soutien conditionnel, je dirais même un alignement de la CAF autour des projets du président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est aussi un deal gagnant-gagnant, puisque ouvrir une Coupe du Monde tous les deux ans, c'est augmenter potentiellement le nombre de sélections africaines qui pourraient prendre part à cette compétition à 48. C'est aussi augmenter les chances de l'Afrique d'organiser la Coupe du Monde. En terre africaine, ça n'a eu lieu qu'une seule fois en Afrique du Sud en 2010 et je devine les ambitions de pays qui ont quelques infrastructures comme en Afrique du Nord, comme en Afrique du Sud une nouvelle fois et ça pourrait également booster la volonté de certains pays de se doter d'infrastructures pour pouvoir avoir au moins une chance d'organiser des compétitions mondiales, Coupe du Monde féminine, Coupe du Monde des jeunes tous les deux ans.
Valdo, une Coupe du Monde tous les deux ans pourrait-elle avoir lieu sans toucher à la périodicité de la CAN organisée elle aussi tous les deux ans?
De quelque manière que cela sera fait, il y aura toujours une incidence sur la CAN qui s'y tient à l'Isée. Comme vous l'avez dit, tous les deux ans, la CAN est en train de tanguer entre janvier, février, juin, juillet. Année impaire et impaire, comme c'est le cas avec la contrainte Covid qui a obligé la CAF à ramener cette édition en année impaire. Et en janvier, puisque la phase finale s'y tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Il faudra d'abord trouver une stabilité de la période et des années durant lesquelles cette compétition doit se jouer afin de mettre en place une bonne planification. Je suis convaincu que c'est cette stabilité qui pourra déterminer si et seulement si le choix de jouer une Coupe du Monde tous les deux ans selon l'option de la CAF pourrait toucher ou non à la périodicité de la CAN. Élisée, comme la CAF de Motsepe ne sait pas dire non à la FIFA d'Infantino, il n'est pas exclu de voir cette CAN se jouer en une autre période que celle indiquée. Allez-y comprendre.
Lawal, ce qui est surprenant, ce n'est pas la décision qui était déjà connue, mais la manière, le vote à l'unanimité.
Donc, Élisée, il faut comprendre que la CAF est comme l'appendice, non pas de la FIFA, mais de Gianni Infantino. Il a comme une certaine influence donc sur les décisions à la CAF. C'est bien malheureux pour les dirigeants du foot africain de ne pas pouvoir se départir de ce joug de Gianni Infantino. Il était d'ailleurs présent donc pour s'assurer que tout allait se passer dans les règles de l'art. Mais au-delà, il faut voir un peu la décision qui est prise. Les Africains, on se demande si ces dirigeants du foot africain ont la jugeote pour prendre une telle décision, une décision que je traiterai de scandaleuse, parce que forcément, on a une CAN déjà difficilement organisable tous les deux ans en Afrique, et c'est eux qui sont pas en mesure d'organiser une compétition tous les deux ans dans les meilleures conditions. C'est eux là qui prennent la décision de faire revenir la CAF, la Coupe du Monde à tous les deux ans, et ça va avoir forcément un certain nombre de répercussions sur la gestion du football à travers le monde. Et je ne sais pas ce qui fait courir les dirigeants africains alors qu'il y a assez de problèmes auxquels on doit chercher solution au niveau de l'Afrique. Ça les intéresse pas, c'est bien malheureux et triste d'ailleurs, Élisée.
Voilà. Le point sur les finances et l'avenir de l'arbitrage africain était aussi à l'ordre du jour. Amine Birouk, on revient à vous. Fawzi Legdia, après sa prise de parole, n'a pas raté l'occasion de critiquer la gestion actuelle de la CAF par la FIFA.
J'ai eu l'impression que Fawzi Legdia a pas beaucoup plus parlé des stades et du projet qui lui a été confié, c'est-à-dire faire signer à la CAF et à la FIFA un accord pour $1 milliard pour doter les 54 pays de nouvelles installations sportives avec appels d'offres internationaux, transparence. Il y a eu aussi son message sur l'amélioration de la gouvernance qui est une nécessité pour pouvoir faire avancer le football africain, les infrastructures africaines, et surtout insister sur la création de nouvelles compétitions. On voit la gestation de la Super League qui pourrait être le nouveau cheval de Troie du sport mondial, dans la mesure où il y aura une expérimentation sur le continent africain. Le principe est acté, les dispositions pratiques vont être dévoilées sous peu, et on a l'impression que avant de lancer la Super League en Europe avec des clubs rebelles, on va tout de même tenter de la lancer sur le continent africain avec des clubs beaucoup plus soumis.
On écoute justement le président de la Fédération royale marocaine de football.
Aujourd'hui, le chapeau, le titre de chapitre, c'est le développement du football. C'est un engagement total parce que la réforme de la ou le développement de l'infrastructure, si on ne réforme pas les compétitions, si on ne réforme pas les autres composantes de développement du football, que ce soit l'arbitrage, la gouvernance et la gestion, le développement de l'infrastructure n'a pas de sens. C'est pour dire, monsieur le président de la FIFA, que les autres volets que vous avez évoqués et qu'on a eu l'occasion de discuter au niveau du comité exécutif sont d'une importance cruciale.
À noter que l'Assemblée générale a également voté pour l'organisation d'une Super League. À Médine, les délégués ont en effet reconnu l'avantage potentiel de cette compétition panafricaine et veulent déjà que la CAF finalise son plan pour le lancement.
Oui, Élisée, ça c'est que les responsables du football africain avaient déjà donné leur accord par rapport à l'organisation de cette Super League depuis longtemps, car le comité exécutif de la CAF qui s'était réuni au Maroc avait approuvé la création de la Ligue africaine, mais la CAF avait même créé une commission qui avait en charge de définir les contours de cette compétition, une commission que dirige l'actuel deuxième vice-président de la CAF. Il s'agit du Mauritanien Ahmed Yahia. Donc les délégués n'ont fait qu'officialiser cette décision lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF qui s'est tenue au Caire. Donc la décision a été prise depuis longtemps, Élisée, mais il fallait l'officialiser.
Après les votes, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'est montré confiant à propos de l'organisation de la CAN en janvier-février au Cameroun. Il a ainsi estimé que les Camerounais sont prêts à 95%. À noter que, dans la semaine, l'instance fêtière s'est dit insatisfaite du niveau de la réalisation des infrastructures, surtout celle d'Olembe qui va servir de match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Valdo, dans la foulée, le gouvernement camerounais a assuré que tout sera prêt au 30 novembre comme prévu. Vous, vous y croyez?
Belle promesse, Élysée, question de rassurer l'option du travail abattu par ces gouvernements camerounais. Le 30 novembre, c'est déjà ce mardi. Pouvons-nous dire que le Cameroun est prêt et a réussi la première manche de sa Coupe d'Afrique des Nations? Manche liée notamment aux infrastructures qui semblaient ne pas donner assez de garanties à la Confédération africaine de football. Lorsqu'on atteint les 95% des réussites d'une organisation à 40 jours de l'événement, il y a de quoi mettre les bouchées doubles pour atteindre les 100% qui consistent notamment pour les cas du Cameroun à pallier à ce qui ne va pas avec les infrastructures, notamment les stades Olembe, puisque c'est les points le départ d'une compétition qui va une fois de plus mettre au devant de la scène le football africain comme on l'aime bien. Et surtout que c'est une première pour le nouveau bureau de la CAF. Les infrastructures doivent être à la hauteur des attentes afin de garantir la fête du football africain.
Amédine, la CAF pourrait bien mettre en exécution sa menace vu l'implication de la Russie de l'événement.
C'est vrai, Élysée, que la Confédération africaine de football n'est pas du tout satisfaite du niveau de la réalisation des infrastructures. C'est pourquoi elle a même menacé le Cameroun. Mais pour moi, c'est simplement une façon de mettre la pression sur les Camerounais. D'ailleurs, cette pression commence à porter ses fruits, car le président Paul Biya a envoyé une délégation au Caire lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, alors qu'il était seulement question de programmer une rencontre virtuelle entre les responsables de la CAF et les autorités du Cameroun pour tenter d'aplanir les différences sur l'évolution des travaux d'infrastructure et de structure devant servir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais le président camerounais a préféré envoyer le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement de la République. Il a conduit une délégation spéciale au Caire pour rencontrer les responsables de la CAF. Cela veut dire ce que cela veut dire, Élysée. Donc je dis que la pression a porté ses fruits puisque les Camerounais feront tout pour être fin prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations, Élysée.
Amine, l'éternel problème d'infrastructure est de retour. Tout est remis en cause.
On a le problème du Cameroun en particulier puisqu'il faut rappeler que la CAN devait avoir lieu en 2019 dans ce pays. On lui a retiré l'organisation une première fois pour lui donner le temps de mettre à jour ses installations, qu'on lui a octroyé l'organisation de 2021, décalée à 2022, qu'il y a eu entre-temps l'organisation du Chêne avec quatre stades qui étaient aux normes. C'est le stade Olembe qui pose problème et visiblement la CAF a peut-être un atout dans son jeu, celui peut-être d'enlever les matchs de ce stade pour pouvoir permettre à la compétition d'avoir lieu, quitte à condenser les rencontres dans les autres installations qui sont prêtes. Quoi qu'il en soit, personne ne doute de la capacité du peuple camerounais à se mobiliser pour la compétition qui aura lieu en temps et en heure au Cameroun.
Lawal, à deux mois de la CAN et encore des polémiques autour de la finition des infrastructures. Finalement, le doute plane sur la livraison de ce stade.
Non, Élysée, si la CAF, la commission de vérification avait fait son travail comme il se devait, on aurait dû tirer la sonnette d'alarme assez tôt. C'est pas à 24 heures de la date limite du 30 novembre qu'on va maintenant dire qu'on est prêt à 95% et qu'il y a menace sur le stade d'Olembe. Il y a un problème qui se pose et je le réitère, les dirigeants de la CAF sont simplement pas sérieux dans l'organisation de tout ce qu'ils font. On aurait dû anticiper et voir ce qui doit être fait. Les stades sont prêts à 95%, vous avez dit. Voilà. Et je ne peux pas concevoir qu'on vienne nous dire encore qu'il y a polémique à ce niveau-là. Maintenant, si les Camerounais n'étaient pas prêts, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils ont eu suffisamment le temps de se préparer pour cette CAN-là. Et s'ils veulent mettre la honte à l'Afrique, qu'ils le fassent et on verra.
À noter là-bas que depuis l'ultimatum de la CAF, le gouvernement se met la pression pour respecter la date limite. On l'espère.
Non, la date limite, c'est le 30 novembre, ils ont dit.
Ouais.
C'est à demain. Donc, fondamentalement, il faut pas, faut qu'on commence par être un peu sérieux en Afrique. Vous n'allez pas voir. Regardez, 2024, c'est les Jeux de